les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages d'ici Buse.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour, c'est les ondes buissonnières cet été. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter un documentaire. Il s'appelle Léon et Antoinette. Léon et Antoinette, c'est une histoire d'amour, une histoire qui se transforme en grande histoire de famille, comme souvent, avec des silences et des secrets. Léon et Antoinette, c'est une époque racontée en polyphonie. C'est signé Brigitte Brisebois et Christophe Rau pour l'ACSR, Atelier de création sonore et radiophonique. Bonne écoute sur les bonnes ondes de Radio Sanfé.
Elle avait plusieurs tiroirs dans lesquels elle met ses petites boîtes, dans lesquelles il y avait un petit bijou de ceci ou un petit bazar de ça. Et alors, moi, j'aimais bien aller fouiller dans ses affaires. C'était bien rangé, c'était toujours bien rangé. Dans sa chambre, il voit encore l'armoire, il voit encore le tiroir. Je suis tombée une fois sur un agenda. Petit agenda bleu, tout petit, que je me suis mise à lire. Et là, j'étais très, très surprise de voir comment papa aimait maman, avait aimé maman. Et là, ça me l'a fait découvrir, en fait.
Le 21 mai 1925. Veux-tu, ma bien-aimée, que ce petit carnet te dise, à toi toute seule, l'histoire banale de mes désirs intimes et de mes aspirations secrètes ? J'avais 15 ans et j'étais au collège. Comme tous les enfants à cet âge, je me crus un moment appelé à la vocation de prêtre. Vers cette époque, je vis sur mon chemin une femme jeune et belle, et je pensais subitement que dans le mariage devait être l'idéal. Constamment, je demandais au bon Dieu de me faire connaître celle qu'il me destinait. Je remarquais successivement deux ou trois jeunes filles qui momentanément fixèrent mon attention. Aucune ne le sut jamais. L'une occupait encore mes pensées lorsque des personnes qui me portaient beaucoup d'intérêt m'invitèrent à un dîner intime pour me faire faire la connaissance d'une jeune fille qu'ils croyaient me convenir. C'était en mai 1923. Quelques jours après, en me taquinant, on me raconta une histoire que tu connais, ma très chère. Et je me demandais s'il serait possible que j'aille frapper l'imagination d'une petite fleur comme toi. Je n'y croyais pas. Je me mis à observer et bientôt à aimer, ton sourire me rendant content. Nous étions en mars 1925, je fis une neuvaine à Saint-François, je fis mes 7 dimanches de Saint-Joseph et tu sais tout le reste. Il y a aujourd'hui 2 mois, mon Antoinette bien-aimée, que si simplement, si gentiment, tu m'as répondu, je ne demande pas mieux. Merci, ma bien chère, de cette confiance charmante avec laquelle tu viens à moi pour que je te conduise dans l'inconnu de la vie. Comme je remercie le bon Dieu et comme je lui demande de m'aider à te faire heureuse. Oh, je t'aime bien, va. Sois bénie et sois heureuse. Léon.
Il aimait beaucoup maman.
Léon et Antoinette.
Ils habitaient tous les deux dans le même village.
Et papa était souvent chez maman. Donc il a vu naître maman, il l'a promenée dans sa voiture d'enfant.
C'est assez curieux de s'imaginer cette histoire-là.
1946. Je m'appelle Antoinette. J'ai toujours connu mon mari. Pendant longtemps, j'ai jamais pensé que je pourrais le marier, quoi. N'empêche que qu'il me plaisait bien, que je l'aimais bien. Que je voyais bien qu'il avait des attentions pour moi. Par exemple, on descendait à la bibliothèque après la messe le dimanche. Je voyais bien quand il avait des nouveaux livres que c'était toujours moi qui l'étonnais plutôt qu'à d'autres compagnes avec qui on descendait de l'église. Et puis c'est un beau jour, un 21 mars, que papa, si ton bon papa croit, est venu chez moi. Mon mari a parlé à mes parents, a demandé à mes parents, avant de me parler, pour savoir s'ils acceptaient que je courtisais en vue du mariage. Avant de m'avoir rien, absolument rien dit.
Mais tu t'entendais quand même bien avec lui.
Je m'entendais bien avec lui, mais n'empêche que moi j'avais que 18 ans, et lui en avait quand même 15 de plus que moi.
15?
Hein? Et alors on s'est vus. Il est venu à la maison plus souvent, 2-3 fois par semaine, 4 fois même, presque tous les jours à la fin. J'ai cotisé que 6 mois. On s'est mariés au mois de septembre. Hein?
Je dois dire que je n'ai pas tellement connu mon père. J'étais toujours levé avant tout le monde et couché après tout le monde.
Je le vois dans son bureau, hein, en train de travailler, venir souper le soir à 6h30, et puis après le souper, retourner dans son bureau et travailler.
Ah, moi, je l'ai toujours vu en pantalon, veston, chemise et cravate. Je ne le vois pas, même en vacances, habillé autrement.
Très discret.
T'es plutôt taiseux.
Réservé pour certaines choses. Quand il était là, tout le monde était là. On bavardait, on parlait. Mais des vraies conversations, jamais.
Mais sinon, il était sévère, hein, oh là là.
Ah, il disait quelque chose, il devait écouter, hein.
Il avait une autorité, quand même, on avait un peu peur de papa.
Très travailleur, très sévère.
Et je regarde finalement un bon souvenir.
Oui, oui.
C'était notre pièce de vie, quoi. Hein.
Salle à manger.
Ce qu'on appelait la salle à manger. Il y avait une grande table ici, autour de laquelle on mangeait tous ensemble. C'est ici qu'on jouait, c'est ici qu'on mangeait, c'est ici qu'on vivait, quoi, qu'on faisait ses devoirs.
Et quand on ouvrait la table, on la mettait en biais pour que tout le monde puisse s'asseoir.
Oui, oui.
Et à table, les places étaient fixées ou bien
Oh, on se mettait toujours à la même place.
Oui. Chacun avait sa place.
Oui.
Et comment c'était organisé
Papa était ici, maman était là.
Je le vois à table, au milieu du grand côté, d'un des deux grands côtés, face à maman d'ailleurs, avec ses enfants à gauche, à droite, devant et sur les côtés. C'est l'image que je m'en fais, tiens, voilà, tu me demandes quelle image me vient à l'esprit. C'est là qu'il était vraiment le papa.
J'y vais? Ah ben, je m'appelle Lucie, je suis née le 15 juillet 1926.
Je m'appelle André, voilà. 13 août 27.
Je suis Anne-Marie, je suis née le 13 octobre 1928.
Je m'appelle Pierre et je suis née le 5 mars 1931.
Je suis Jean et je suis née le 24 août 1932.
Je m'appelle Michel, je suis née le 6 décembre 1933.
Je m'appelle Jacques, je suis né un 13 mars 1935.
Bien, je m'appelle Albert, je suis né le 15 août 1936.
Je m'appelle Bernadette et je suis né le 30 novembre 1937.
Je m'appelle Léon, je suis né le 31 janvier 1939.
Je m'appelle Marinette et je suis née le 23 janvier 1943 à Ouffet.
Je m'appelle Madeleine et je suis née le 11 mars 1946.
Voilà, je me souviens très bien que maman nous a dit plusieurs fois d'ailleurs.
Vous êtes 12, mais sachez qu'on vous a voulu tous les 12.
Ah oui, 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 vous êtes.
Vous êtes 12 et on a voulu vous avoir tous les 12.
Oui. Mon papa avait dit ça, effectivement.
Leur premier enfant est né en 1926. Leur dernière est née en 1946. 20 ans de différence entre ma mère et sa fille aînée. 20 ans de différence entre sa fille aînée et sa plus jeune fille.
J'ai vécu dans une ferme, mon père était fermier. Nous étions une famille de conditions moyennes. Hein, on devait travailler pour vivre, le travail de la ferme nous faisait vivre. C'était une éducation sévère, on devait obéir aux parents sans jamais rouspéter.
Pas comme maintenant.
Ah non. Hein, étant l'aîné, moi je devais aider mes parents. Après la classe, je devais venir peler un grand saut de pommes de terre pour le lendemain. Je devais promener ma petite soeur et mon petit frère. On n'avait pas de jouets, on n'avait pas... La seule poupée que j'ai eue, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée alors que j'avais 10 ans.
Ah bon?
Ah, oui.
Quand je pense à maman, ben je la vois évidemment en train de travailler.
Ouais, c'est une maman merveilleuse que nous avons eue.
En train de travailler comme une malade, mais aussi volontaire. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait mener son monde.
Elle était très patiente, elle savait écouter, elle était courageuse.
Engagée aussi, elle était responsable de la CRF, c'est-à-dire l'Action catholique rurale féminine.
Elle était joyeuse.
Elle chantait, elle écoutait les... Les opérettes qu'Anne-Marie mettait toujours à la radio.
Oui, elle savait rire, maman. Elle savait avoir des fous rires. Quand il y avait une sottise ou une bêtise, je riais beaucoup avec maman. Ça, oui, mais c'est... ça, je m'en souviens bien. Mais une discussion, une conversation, non.
Je n'ai jamais entendu se plaindre. Jamais, jamais, jamais. La première fois, et c'est peut-être la très rare fois que j'avais vu pleurer maman, j'avais pas 3 ans. C'est quand on est arrivé à Ouffet et que notre petit frère Jacques est mort. J'ai vu maman pleurer sur le berceau. Elle avait 2 ans et demi. Donc elle en a vu aussi, quoi.
Ici, c'était la grande cave, qu'on appelait ça le fruitier. Donc, il y avait un couloir, et ici, il y avait deux grandes planches de chaque côté sur lesquelles on étalait les fruits.
C'était les enfants, le ménage, hein, tout le temps. Elle savait bien coudre, elle savait bien tricoter, elle faisait toujours quelque chose.
Et alors, en dessous, il y avait des grands pots en grès bleu dans lesquels on mettait conserver le beurre. On achetait du beurre à la bonne saison dans les fermes et on bourrait ça là-dedans avec du sel, ce qui fait qu'on avait du beurre de cuisine toute l'année.
J'ai plutôt des souvenirs de voir ma mère qui se levait à 5 heures du matin lundi pour nettoyer les chaussettes de tout le monde dans sa grande bassine. À la main, boum.
Mais elle faisait son jardin, elle semait ses légumes, récoltait tout ça, elle le mettait en conserve.
Et terminait la lessive le soir après avoir étalé tout son linge propre dans l'immense prairie qu'elle avait dans son jardin, soit sur les fils, soit par terre.
Alors, il y avait aussi, on conservait des œufs, hein, dans une espèce de seau. Oui, je ne sais pas exactement, ils mettaient un peu de chaud dans l'eau et on mettait les œufs là-dedans, ils se conservaient pendant tout l'hiver.
Cuisinait beaucoup, maman.
Et c'était des grands pots en grès.
Tous les samedis matins, des tartes. Je sais combien de tartes, hein, c'était phénoménal quand même. Les quantités. C'est ça qui était frappant, c'était les quantités. Les grandes casseroles.
Papa était chasseur.
Ah oui.
Chasseur au petit gibier. Alors quand on revenait, il y avait 10-12 pièces de gibier, de faisan, de lièvre, de lapin, etc. On les amenait ici et on les pendait au crochet. Pour que ça faisande un peu. Il y avait des crochets un peu partout. Et alors ici, il y avait aussi...
Je crois qu'elle était tellement prise dans son travail avec le nombre d'enfants qu'elle avait que c'était sa vie comme ça.
Quand on faisait les vaisselles, quand je faisais la lessive avec elle, c'était les moments privilégiés. C'était les moments où on pouvait parler avec elle. Et c'est surtout ça qui me reste, évidemment. Les petits moments dans le lavoir, les petits moments dans la cuisine, les petits moments dans le fourni quand je faisais la lessive avec elle le lundi matin quand j'étais en congé.
Si elle coupait des cerises, on allait ramasser les cerises. Si elle ramassait des pommes, on allait ramasser des pommes, quoi. Mais jouer avec elle, je ne me souviens pas. Je pense que j'ai pas fait de jeu avec elle. Ni de dessin, ni de bricolage comme je fais avec mes petits-enfants, par exemple. Non.
Manque de temps.
Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus ?
C'était un couple uni.
Très lié.
Vraiment très, très, très uni.
Papa, il adorait maman.
Je crois qu'ils sont toujours extrêmement bien entendus. Pratiquement à la même façon de penser.
Ils se mettaient toujours d'accord sur les décisions à prendre.
Parfois, quand même, j'ai eu l'impression que c'était ma mère qui dirigeait la maison aussi.
Non, les décisions, ils ont toujours pris ensemble. Toujours, toujours, toujours. Il y avait une chose que maman détestait, c'est que c'est papa qui avait toujours l'argent et que maman en avait besoin, elle devait toujours le lui demander.
Ouais, c'était souvent.
C'était comme ça à l'époque, probablement. Hein. Mais c'est tout.
Tout simplement.
Ils ne discutaient jamais entre eux, devant les enfants. C'était eux qui prenaient leurs grosses décisions et qui discutaient ensemble. C'est quand ils allaient dormir.
J'entendais le bruit de leur voix.
Ils priaient aussi. Ils disaient chaque fois une dizaine de « Je vous salue Marie avant d'aller dormir ». Je l'entendais. Voilà.
Ils allaient dans la messe presque tous les jours, hein, ou tous les jours, hein, papa et maman. Tout avant de nous réveiller, même. Et puis j'étais fort branché sur la foi, l'église, et la prière, quoi, tout ça, c'était important pour eux. Ils nous ont fait prier, hein.
On se mettait à genoux. Et tourner vers le crucifix. Ça a duré des années.
C'était les chapelets le soir, le dimanche soir, à genoux, sur sa chaise, tous ensemble. C'était les prières avant et après le repas. C'était la messe du dimanche avec la communion. C'était aller à confesse. C'était les indulgences. C'était les neuvaines. C'était les processions. C'était le catéchisme.
les deux années qui précèdent la communion solennelle, on était obligé d'aller à la messe tous les jours. On ne pouvait pas avoir mangé, même rien du tout avant d'aller à la communion. On ne pouvait pas toucher l'hostie, on ne pouvait pas, quoi. On ne pouvait pas, quoi. Hein. On nous foutait l'hostie sur la langue. Il fallait aller aux rogations. Les rogations, c'était les processions dans la nature pour que les récoltes soient bénies, si tu veux, pour que le temps soit clément.
Mais chaque année, la procession s'arrêtait dans la maison. Et maman, vraiment, avait préparé tout. Donc elle garnissait le seuil, mettait une table pour pouvoir poser l'ostensoir. Et puis alors le cortège arrivait, on s'arrêtait, on faisait cette petite cérémonie-là. Et puis le cortège repartait dans un autre coin pour finir par rentrer à l'église.
Quand ils sont arrivés à Houphet, à l'époque, il y avait une certaine animosité entre gens de. Donc entre socialistes et chrétiens. Les activités à Houphet, c'était surtout les carrières et l'agriculture. Et puis petit à petit, les gens sont allés travailler dans les usines dans la vallée de la Meuse, parce que les carrières ont périclité. Et c'est de là qu'est née la plus grosse opposition. C'est quand les gens sont allés travailler en usine.
C'est curieux, mais c'était comme ça à l'époque. On était catholique, on était socialiste.
Il y avait une maison du peuple à Houphet, dans notre rue, à l'autre bout de la rue. Je n'ai jamais mis les pieds moi-même dans la maison du peuple. Il y avait une coopérative socialiste. Maman n'aurait jamais mis les pieds au magasin de la coopérative. Il y en avait d'autres, notamment un magasin qui s'appelait Le Groupe et qui était de tendance tout à fait chrétienne. C'est là qu'on faisait l'essentiel des courses à l'époque. Il y avait les écoles. Il y avait les écoles communales et les écoles catholiques.
Il y avait une cassure assez nette entre les deux mondes, finalement.
Les socialistes étaient plus sectaires que maintenant, quoi. Les catholiques aussi, d'ailleurs. Hein. On se rencontre, on se disait bonjour. On se dit toujours bonjour, toujours, qui que ce soit. Mais c'était tout, quoi.
Papa disait bonjour à tout le monde, même aux socialistes et aux gens qui...
Il était respecté de tout le monde, hein.
Quoi, qui, politiquement parlant, aurait craché dessus, quoi. Il connaissait tout le monde.
À cette époque-là, des tas de gens venaient lui demander des conseils. Mais, dit-il... Ceux qui sont socialistes ne viennent jamais me voir que le soir quand il fait noir, pour qu'on ne les voit pas aller chez Ginster.
Il y avait beaucoup de gens qui allaient à la messe.
Oui.
Pratiquement tout le monde.
Pratiquement beaucoup. Pas tous, parce qu'il y avait déjà des socialistes chez nous. C'était le début du socialisme, mais il y avait déjà du bon socialisme chez nous. Dont l'instituteur, entre autres.
Ah, oui.
Il était vraiment sévère, mais seulement très bon instituteur. Et quand on avait fini ses primaires, on ne faisait plus de faute d'orthographe et on savait être les premiers dans les pensionnats ou les collèges où on allait.
Et tu aimais bien le pensionnat?
Moi, j'aimais très bien. Moi, j'ai pleuré quand j'avais plus été. C'est drôle, hein?
Oui.
Si j'avais... Moi, si j'avais pu continuer mes études, j'en aurais certainement continué. Je n'avais pas tellement... J'étais toujours dans les premières à l'école.
Tu aimais bien étudier?
J'aimais bien étudier.
Et t'as dû travailler à la ferme?
Mais alors, justement, j'étais l'aînée. On avait besoin de moi à la ferme. Et mes soeurs étaient au pensionnat. Il fallait... Et on avait un frère, et lui... En somme, toutes les filles chez nous ont travaillé pour que leurs frères fassent des études de médecin. Tu vois, les filles faisaient 3 ans d'études, mais parce qu'il y avait un fils, eh bien lui, on lui a payé les études jusqu'à ce qu'il soit médecin. Tu vois, dans ce temps-là, c'était comme ça.
Par rapport aux tâches ménagères, est-ce que les garçons étaient impliqués de la même manière que les filles?
Ah, ils devaient faire la vaisselle avec nous, ça. parce qu'on avait des grosses vaisselles à la main. Et ça, toujours, un garçon venait faire la vaisselle. Mais c'est tout.
Est-ce que toi, tu faisais des choses en plus que les garçons?
Des choses, je veux bien croire. C'est pas eux qui nettoyaient leurs chambres, c'est pas eux qui lavaient leurs habits, ils étaient crasseux parfois. C'était. Oh oui, des choses comme ça, quoi. Toutes les semaines, je nettoyais toutes les chambres.
Et eux, ils faisaient quoi pendant ce temps-là?
Ils étaient à l'école. Hein.
Et au niveau des études, il y avait une distinction entre les garçons et les filles.
Ah ben, les garçons ont tous fait leurs humanités, par exemple. Tandis que par les filles, pas, hein. J'ai pas été beaucoup à l'école, hein, finalement. J'ai fait la première année, la deuxième année, c'est la guerre qui a commencé, on n'a pas continué la deuxième année. Et en troisième année, ben, les parents ont décidé que je pouvais faire d'autres actions tout en étudiant certaines choses, quoi. La dactylo, le piano... Tu vois, je n'ai jamais fait de vraies études, moi. Et j'aurais voulu. Toute ma vie, j'ai regretté de ne pas avoir fait des humanités. Ça, oui. Mais je ne serais eu plus de chance que moi. Et moi, étant l'aînée de la famille, j'ai jamais fait un tour avec papa et maman. Ils sont partis parfois 2-3 jours ensemble, hein. Ils prenaient toujours un ou deux des enfants. Mais moi, j'étais là pour les autres. Pour les enfants, pour tenir la maison. J'avais déjà dans les 20 ans, hein. Je ne leur en veux pas, mais ça me chipote un peu quand même. C'est l'inconvénient d'être l'aînée d'une famille nombreuse. Ce que je me suis dit quand moi j'ai eu Claire, je dis jamais tu ne vivras comme moi j'ai vécu. J'ai voulu que Claire puisse profiter autant que ceux qui venaient après. Tu vois, ça m'a marqué très fort à l'époque. Maintenant, on n'y pense plus, évidemment. Hein.
La guerre a provoqué quand même un mixage beaucoup plus profond, probablement, dans la population. Une sorte de solidarité qui a fait fort évoluer les mentalités.
Ça s'est terminé, hein, cette histoire catholique-socialiste. Tout le monde vivait ensemble. Hein. C'était fini, ça, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, là, je doute un peu, parce que l'école socialiste y était toujours, en tout cas.
Mais vous pouviez peut-être aller au magasin socialiste après, ou quoi?
On n'y a jamais été.
Moi, j'étais copain à un moment avec le fils du bourgmestre socialiste. Je dirais bien pourquoi. Parce que ce type avait fait la guerre, il avait fait des études. Et puis quand il venait, quand il passait devant chez moi, ben, il s'arrêtait, on parlait pendant une heure. Hein, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que
les socialistes étaient comme les autres, quoi. Notre mentalité, à nous, a fort évolué aussi, parce que quand on était petit, les socialistes, c'était des intouchables, hein. Après, plus du tout, évidemment.
Mais moi, je ne pouvais pas traverser la rue pour aller jouer avec une fille qui avait mon âge, qui n'était pas dans la même école que moi. Je ne pouvais aller jouer que chez la fille du docteur ou chez la fille du patron des carrières.
On était quand même dans un milieu très, très,
très catho quand même, hein, nos parents.
Qu'est-ce que je veux dire? Très préservé.
Un peu fermé, un peu bourgeois, disons.
Papa était bourgmestre pendant 18 ans. C'était un notable du village. La gestion de propriété.
Ouais, c'était le boulot de papa, ça. Ouais.
Par son métier, il avait des contacts avec des tas de gens, avec les propriétaires et les locataires, des fermiers, etc.
Oui, en plus, papa avait un très grand portefeuille d'assurance.
Tout à fait. Maintenant, il y avait aussi dans cette gestion des successions à régler, des partages à faire.
Pain 140.
Papa veillait à l'entretien, à la rentabilité, etc., des bois, des forêts. Mais là, je me souviens bien d'avoir été avec papa plusieurs fois.
On allait mesurer et cuber les arbres.
On crie à papa, ta mesure, et papa, il notait tout ça.
Avec un petit appareil, on devait marquer l'arbre qui devait être coupé.
C'était des boulots terribles, hein, ça. On allait laver là 8 h du matin, on revenait à 6 h du soir.
Et alors, il y avait les marchands de bois qui venaient à la maison, qui allait dans le bureau de papa et on ne pouvait sûrement pas aller se promener par là.
2 mètres.
Il ne fallait surtout pas faire un mouvement de travers s'il nous voyait, parce qu'il n'était pas souvent là. Il était assez sévère, papa. Parce que c'est pas rien d'avoir 12 enfants quand même. Hein.
La sévérité de papa, l'autorité, ça m'a laissé des traces. C'était une forme d'éducation qui était beaucoup plus rigide que maintenant. Hein, et pour laquelle papa était un adepte à 100%, quoi. C'était comme ça et pas autrement. On ne discute pas. Hein? Jusqu'à de dire, tu réussis à l'école ou tu n'y vas plus. Tu ne peux pas fumer. Tu dois aller à l'église, à la messe tous les jours. Ah oui, je ne peux pas dire que je n'en avais pas peur, j'avais un peu peur de papa. La dame, aller à la messe, ça m'emmerdait.
Pas moyen de se révolter.
On n'y pensait pas. C'était pas dans les mœurs du temps. Hein. Je ne sais pas si mes enfants se seraient révoltés, si je les avais éduqués comme ça, mais. Hein, je n'aurais pas pu les éduquer comme ça. Allez, moi, quand, pendant la guerre, une fois, on m'a invité à aller prendre un bain dans l'Ourthe. Hein, papa m'a défendu d'y aller parce qu'on voyait des jambes des jeunes filles. Comme ça, hein. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Que voulais-tu faire? Tout ça a tellement changé après. Heureusement. Oh oui.
on discutait très peu, hein, avec ses parents. Ça, c'est peut-être un défaut là, que j'ai reçu de mes parents. Ne pas savoir m'exprimer assez et dire ce que je pense. Ça c'est peut-être un oui. On n'osait pas dire quelque chose. Mon père, c'était le pater familias, comme on disait. Ça ne se faisait pas, hein. C'était pas par peur, c'était ainsi, quoi. Hein. C'est tout. C'est tout, mais c'est, voilà. Enfin, j'ai eu une discussion quand même avec lui. Une discussion qui a été assez sérieuse quand j'ai divorcé. Dans le petit village du Fay, quelqu'un qui était divorcé, c'était le démon, c'était le diable, quoi. Hein. Ah oui, hein. Je me souviens d'une dame du Fay qui était divorcée, c'était presque pas question de la regarder, quoi. Hein. Un divorce, c'était un péché mortel, quoi, il n'y a rien à faire, quoi. Hein. Mais là, il m'a dit, bah, écoute, bon, là, ils ont accepté de façon magnifique mon divorce. Mais là, une fois discuté avec moi, il m'a dit, bah, écoute, on accepte, mais... Mais tu nous fais souffrir, quoi. Hein. C'est la seule discussion que je me souviens avec mon père. Hein. Ben c'est tout, quoi. Hein.
Parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants.
J'ai jamais été au bal, moi, parce que j'avais pas de frère pour m'y conduire.
Il était trop jeune.
Il était trop jeune, hein. Je me suis mariée jeune aussi, faut dire, à 19 ans, hein. Mais enfin, mes soeurs ont été un peu... De temps en temps, une soirée, elle. Et moi, j'ai jamais été à une soirée étant jeune, hein. Mais ça, c'était le fait un peu de ne pas avoir de frère pour nous y conduire non plus. Mais une jeune fille ne partait jamais avec un jeune homme sans avoir quelqu'un qui l'accompagnait.
C'est pas comme
maintenant. Alors...
Je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés
on a pu tous organiser des soirées où on invitait des amis qui on voulait, de la famille, des amis, tout ça. J'ai l'impression que c'était une façon à cette époque-là de faire des rencontres. Que les aînés, je ne sais pas comment ils ont fait. Oui, les garçons, quand ils étaient à l'UNIF, probablement. Mais les deux aînés, c'était autre chose. Hein. Ici, c'était une rencontre organisée. Une fois pour ça, ils étaient géniaux. Sauf que... pas d'alcool. Alcool interdit. Et alors, quand nous baissions un peu les lumières quand il y avait des slow, papa ça n'arrêtait pas d'aller rallumer les lumières. Et oui, papa, il nous suivait partout. Hein. Chaperon. Hein.
La soirée s'était bien passée s'il n'y avait eu pas un seul qui avait flirté. Ça veut dire danser jour contre jour à cette époque-là, c'est tout. Personne ne s'embrassait. Moi, je n'ai jamais vu personne s'embrasser. Je n'ai pas jamais vu mes frères embrasser mes belles-sœurs. Ben non. Non, ça ne se faisait pas, hein, ça, pas en public. Et surtout pas pendant une soirée à la maison, hein, malheureux.
Mais on en a fait quelques-unes, cette soirée. Enfin, on a quand même des bons souvenirs.
Tu sais, il faut dire également que nous autres, enfin, moi je le ressens très bien comme ça, finalement, avant 18-19 ans, avant rencontrer une fille, c'était zéro, quoi, hein. Donc, moi, je n'ai pas parlé avec une fille avant 18-19 ans. Voilà. Mais la façon d'aborder une fille, c'était pour moi difficile, quoi. Hein. Difficile. Bon, voilà.
Là, c'était la chambre des garçons.
Là.
Les garçons. Non, la chambre des filles.
Non, là, devant.
Non, la tienne, après. Mais quand vous étiez petite, c'était là au départ.
Oui.
La chambre des parents était là.
La chambre de papa et maman.
Oui. Donc, maman dormait de ce côté-là, et papa de ce côté-là.
Il y avait un lit par là aussi quand on était malade.
Quand on était malade, il mettait un petit lit. Oui. Et puis, il avait arrivé à ce moment-là de chauffer aussi, sinon il ne chauffait jamais. Non.
Je me souviens d'avoir été dans leur chambre à coucher. Je me souviens m'être assis près de ma maman.
Maman m'a pris à l'écart.
Je me souviens que c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué, à la manière de l'époque, évidemment, ce qu'étaient les relations entre hommes et femmes.
Autrement dit, comment se pratique l'amour?
Elle m'a parlé des fleurs et puis des abeilles, des hommes et des femmes, donc pourquoi il fallait nécessairement se marier avant, hein? Je me revois assis au bord du lit, hein, face à la fenêtre, en train de discuter. Je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà.
Je me souviens bien que quand j'étais à Marie-Thérèse, il y avait la poliomyélite qui s'est révélée. Hein, et alors, on n'avait plus le cours de gymnastique. Le professeur a dit, bah, écoutez, moi, je vais vous expliquer le sexe. Et j'avais pris des notes, hein, pourquoi on avait des règles, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et je l'avais montré à maman. Et ma maman a dit, oh, ben je suis bien contente, je saurais comment m'expliquer pour Marinette et Madeleine. C'est tellement que c'était pour elle très difficile d'expliquer ça aux filles.
Je crois que maman était quand même fort réservée par rapport à la vie. Par exemple, je voyais ce qu'on appelait des serviettes hygiéniques en tissu sur la table où elle repassait. Je lui demandais ce que c'était, elle ne me répondait pas. Et un jour, elle m'a appelée dans sa chambre à coucher pour m'expliquer ce que c'était les règles et des choses comme ça.
Non, le mode d'éducation sexuelle, c'était mauvais finalement, hein, faut le dire. Quoi, hein. C'était mauvais, hein, mais mes parents n'ont jamais parlé de ça, hein, à part cette conversation avec ma mère une fois. C'est tout, il n'était pas question de parler de sexe, il n'était pas question de parler de quoi que ce soit à ce point de vue-là. Là, c'était tout de suite niet. Hein. On ne disait rien, surtout on n'en parlait pas. Quoi. Jamais. Hein. Moi, j'ai dit une fois à ma mère, en rigolant, hein, si la pilule avait existé, de temps en temps, je ne serais pas là. J'étais quand même le numéro 10. Et ma mère m'a répondu, non, on vous a aimé tous, on vous a voulu tous. Mais bon.
Alors tu vois un petit peu pourquoi on est 12, non, c'est trop rien, mais. Mais bon, il n'était pas question de contraception.
Mais dans le temps, la religion catholique, vous faites l'amour pour avoir des enfants, et puis c'est tout. Ça, je m'en souviens très bien.
Pour moi, c'était une certaine forme d'handicap d'avoir des parents qui n'osaient pas parler de la vie en général. On a dû faire son chemin un peu tout seul par après. Je pense que ce style d'éducation nous a quand même marqués, dans le mauvais sens du terme. Cette partie-là. Attention, ils ont fait ce qu'ils ont cru qui était bien. Hein. Ça, c'est leur propre éducation, hein, j'en suis certaine. C'est pas une critique. C'est un regret. Par contre, pour cette époque-là, je ne pourrais pas d'autres parents.
Attends, je vais avoir 80 ans l'année prochaine.
Ah oui?
Et je suis heureusement encore bien importante.
Voilà.
Et je suis encore en même temps d'aider les enfants quand il faut. Hein? Donc je suis bien contente.
Oui, c'est... Et puis mon papa, il est mort avec quel âge?
Mon papa est mort qu'il avait 80, presque 88 ans, 87. Il allait avoir 88 ans au mois suivant.
Et tu avais quel âge?
Moi, j'avais 15 ans de moins.
Ah ben oui, oui.
J'avais donc 73 ans. Hein? C'est ça, 88. Mm-hmm. Moins 15.
Puis après, voilà, quoi.
Puis j'ai vécu toute seule. En allant souvent chez mes enfants.
Oui.
Voilà.
Merci.
Eh bien, ce jour-là, maman demande à sortir au jardin. Il faisait déjà noir. Elle est allée à la porte de derrière que j'ai ouverte et refermée presque tout de suite parce qu'il faisait très froid. Maman est revenue dans la salle à manger. Elle s'est mise dans son fauteuil. Elle a dit, tiens, je vais aller dans l'autre fauteuil. Elle est partie dans l'autre fauteuil. Elle s'y est endormie complètement. C'était fini. Je me suis aperçue de rien. Elle était partie comme ça. Heureuse certainement d'aller retrouver son mari. C'est tout.
Il y avait des légumes partout ici. Hein.
Ah oui.
C'était Léon et Antoinette.
Beaucoup venaient du jardin, ça s'appelait. Oh oui. Beaucoup.
Il y avait toutes les sortes. Hein.
Un documentaire de Brigitte Brisebois, réalisé en collaboration avec Christophe Rau.
Ben, je crois que ces roses-là, c'est des roses que maman a plantées.
Délégué de production, Carmelo Iannuzzo.
Oui, mais...
Montage et mixage, Christophe Rau.
C'est quoi, si, il y avait des balançoires. Tu t'en souviens, ça?
Merci à Lucie, André, Anne-Marie, Pierre, Jean, Michel, Jacques, Albert, Bernadette, Léon, Marinette et Madeleine Roginster, ainsi qu'à Émeric Bragard. Une production 2013 de l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé, dans les ondes buissonnières, vous venez d'écouter Léon et Antoinette, un documentaire signé Brigitte Brisebois et Christophe Rau pour l'atelier de création sonore et radiophonique, une mine de documentaires sonores qui se trouve du côté de la Belgique, Bruxelles plus exactement. Vous pouvez d'ailleurs écouter plein de choses sur leur site ACSR. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site www.radiosaintfé.com, rubrique émission de la rédaction, et c'est les ondes buissonnières. Vous pouvez retrouver donc les ondes buissonnières pendant l'été, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 13h.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage. Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.